RFI, il est midi à Paris, 6h à Washington, 10h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, le jour d'après les droits de douane annoncés par Donald Trump, le FMI a fait part de son inquiétude. Les principaux partenaires commerciaux des États-Unis cherchent désormais la parade, alors qu'un vent de panique s'est fait sentir sur les marchés hier. Et les réactions des pays touchés par ces annonces sont nombreuses. On s'intéressera à Haïti. Ses exportations vers les États-Unis seront taxées à 10% et les économistes s'inquiètent des conséquences sur le pays. Dans le reste de l'actualité, la Colombie, une nouvelle loi sur les enfants victimes collatérales de féminicides. Objectif, protéger les orphelins. Ils sont au moins 23 000. Les détails dans ce journal. Et puis au Japon, un scandale pour la première chaîne de restauration rapide du pays avec une opération de désinfection. Des clients ont en effet découvert une souris puis un cafard dans leur plat et ça fait beaucoup réagir. Les annonces de Donald Trump constituent un risque important pour les perspectives mondiales. Déclaration de la directrice du Fonds monétaire international après les annonces de droits de douane par le président américain sur les produits importés aux États-Unis. De quoi agiter fortement les marchés financiers américains. La bourse de New York a connu une forte correction hier. Le dollar reprend 1% à la livre après sa chute de jeudi. Globalement, si cela suscite l'inquiétude, Donald Trump, lui, se veut rassurant. À Washington, Guillaume Nodin.
Je pense que tout se passe bien. C'est un Donald Trump confiant qui fait le point après la clôture de la pire journée sur les marchés financiers depuis 2020. Il compare ses décisions à une opération chirurgicale dont le patient doit désormais se remettre. Un processus qui, selon lui, va mettre 2 ans à faire sentir ses effets bénéfiques, explique-t-il un peu plus tard dans l'avion qui l'emmène vers la Floride pour un week-end largement consacré au golf. Toute la journée, ses supporters l'ont défendu bec et ongle sur des écrans repeints en rouge pour illustrer la chute des marchés dont dépendent notamment les retraites de nombreux Américains. Son secrétaire au commerce Howard Lutnick, qui fait partie des promoteurs du plan, suggérant même de laisser Donald Trump s'occuper de l'économie globale. Tout le monde ne l'entend pas forcément de cette oreille. Le sénateur républicain de l'Iowa, Chuck Grassley, et sa collègue démocrate de l'État de Washington, Maria Cantwell, proposent une loi qui donnerait au Congrès le droit de valider ou non les droits de douane décidés par le président. 4 sénateurs républicains se sont en outre joints à une proposition démocrate pour annuler les droits de douane contre le Canada. Tout ceci a très peu de chances de passer à la Chambre des représentants, mais fait tout de même entendre un son de cloche un peu différent au sein du camp républicain. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et les déclarations de Donald Trump sur les nouveaux droits de douane inquiètent différents pays, notamment Haïti. Ses exportations vers les États-Unis seront taxées à 10%, le taux le plus bas imposé par la Maison-Blanche, mais impossible de s'en satisfaire, puisque ces taxes s'appliquent au secteur de la sous-traitance textile protégée jusqu'ici par 2 lois américaines les exemptant de droits de douane. Les conséquences pourraient être dramatiques, explication de l'économiste haïtien Enomi Germain.
Ce secteur concerne 90% des exportations totales du pays. Et deuxièmement, c'est un secteur qui emploie aujourd'hui plus de 30 000 personnes. Donc, si les 10% concernent ce secteur, ce sera une catastrophe en Haïti pour ce secteur, la sous-traitance, mais également le secteur agricole et la petite industrie qui seront totalement négativement impactées. Les tarifs douaniers moyens imposés à Haïti par les États-Unis d'Amérique, ça reste en général, en dessous de 5%. Maintenant, passant de 5 en moyenne à 10%, c'est extrêmement élevé. Ça veut dire tout simplement, Haïti sera dans une logique de non-intégration. On n'est pas suffisamment compétitif, ajouté au fait que les conditions internes d'Haïti se détériorent et ça empêche de produire et d'avoir la capacité d'exporter, si vous voulez, de façon normale vers le reste du monde et en particulier vers les États-Unis d'Amérique qui constituent le premier partenaire économique de ce pays en difficulté.
Des propos recueillis par Juliette Chénion. Et en pleine guerre commerciale américaine, la Russie, elle, est épargnée par les droits de douane décidés par Donald Trump. L'émissaire économique spécial du président russe Vladimir Poutine a par ailleurs rencontré à Washington des représentants de l'administration de Donald Trump. Une rencontre qui intervient dans un processus de rapprochement entre la Russie et les États-Unis. C'est aussi la première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Direction le Proche-Orient, la défense civile de Gaza a annoncé ce matin au moins 30 nouveaux morts depuis l'aube lors de bombardements et opérations militaires israéliens sur le territoire palestinien. Plus tôt dans la journée, Israël a annoncé avoir lancé une nouvelle offensive au sol à Gazaville, soit moins de 48 heures après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis d'accentuer la pression militaire sur le Hamas pour obtenir la libération des otages encore retenus dans la bande de Gaza. Après deux mois de trêve, Israël a repris le 18 mars dernier son offensive dans l'enclave palestinienne. Et par ailleurs, la mort de 15 secouristes et travailleurs humanitaires à Gaza en mars dernier après des tirs sur leurs ambulances soulève de nouvelles questions pour le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui parle de crimes de guerre par l'armée israélienne. RFI, il est 5h05 à Bogota, en Colombie. Une loi a été votée ce mercredi par le Congrès pour protéger les orphelins par féminicide. Au moins 23 000 enfants ont perdu leur mère à cause de ces violences au cours de la dernière décennie et ils se retrouvent souvent seuls, à charge de leur famille ou des institutions. Cette nouvelle loi est censée leur assurer un avenir malgré la mort de leur mère. Les détails de notre correspondante en Colombie, Najet Benrabah.
Il n'existe pas de chiffres officiels sur les féminicides en Colombie. Mais d'après le Défenseur du Peuple, l'an dernier, 745 féminicides ont été signalés. C'était l'année la plus meurtrière depuis le début du recensement de ces délits en 2018. Alors, la nouvelle loi permettra une meilleure prise en charge des enfants et adolescents qui dépendaient économiquement d'une mère victime de féminicide. Le texte stipule qu'ils auront un accès préférentiel à des programmes d'éducation et à des soins psychosociaux et de gestion du deuil, en plus d'une assistance financière régulière. Un système de protection est aussi prévu concernant cette aide financière, l'idée étant d'éviter qu'elle ne se retrouve entre les mains du père, qui est souvent l'auteur du féminicide. L'âge maximum pour bénéficier de ces prestations est de 25 ans. Cette loi donnera aussi naissance à un registre des enfants et adolescents orphelins par féminicide afin de permettre une surveillance continue du mineur et d'assurer sa protection. Le Congrès a donc voté cette loi ce mercredi. Il ne manque plus que la signature du président pour l'officialiser. Najet Benrabah, Medellín, RFI.
L'Union européenne ouvre une nouvelle ère dans ses relations avec l'Asie centrale. Un sommet en Ouzbékistan est organisé aujourd'hui, regroupant les 5 ex-républiques soviétiques de la région, à savoir le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, où les liens avec la Russie et la Chine sont fortement présents. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est sur place aux côtés du président du Conseil européen, Antonio Costa. C'est le troisième sommet Union européenne-Asie centrale depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Ursula von der Leyen a annoncé une aide de 12 milliards d'euros pour l'Asie centrale dans le cadre de son projet de Global Gateway pour les infrastructures, une réponse européenne aux nouvelles routes de la soie de Pékin. Au Japon, c'est un gros scandale qui touche la plus grande chaîne de restauration rapide, Sukiya. Cette semaine, c'est près de 2000 établissements dans tout le pays sont porte-close, fermés en raison d'une opération exceptionnelle de désinfection et d'assainissement, car des clients ont découvert une souris puis un cafard dans les plats qui venaient de leur être servis. Et dans l'archipel, cette affaire fait énormément de bruit, Bruno Duval.
Au Japon, les gyudon de la chaîne Sukiya sont immensément populaires. Ce terme désignant des bols de riz garnis d'oignons mijotés et de fines lamelles de bœuf braisé. Que dans ces plats, on ait trouvé aussi un rongeur puis un cancrelat, ces tokyoïtes n'en reviennent pas.
Quel scandale ahurissant! Cette fermeture générale, elle était vraiment inévitable.
Fermé pendant une semaine, ça ne suffit pas. Il faut expliquer les raisons de ces incidents aussi effarants et les mesures qu'on va prendre pour éviter qu'ils ne se reproduisent.
Moi, en tout cas, je ne mettrai plus jamais les pieds dans les restaurants de cette enseigne.
Des dizaines de milliers de salariés au chômage technique et pas la moindre démission au sommet de cette chaîne, les bras m'en tombent.
Il y a quelques années déjà, la filiale japonaise du géant américain des hamburgers, puis une chaîne de restaurants de sushi, avait été épinglée pour la propreté régnant dans leurs établissements. Les experts attribuent cette succession de scandales à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le pays, due à près de 20 années de dénatalité. Comme il y a de moins en moins de jeunes à embaucher, la plupart des entreprises sont en sous-effectif, elles bâclent donc la formation du personnel et les contrôles de qualité. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Et en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol est donc finalement destitué par la Cour constitutionnelle après 4 mois de feuilletons politico-judiciaires qui ont marqué le pays. L'annonce a été confirmée ce vendredi à l'unanimité. À l'origine de cette décision, sa tentative désastreuse d'imposer la loi martiale. Jusqu'à présent, il n'était que suspendu. Cette destitution entraînera une élection présidentielle anticipée sous 60 jours. La date du scrutin doit être annoncée prochainement. Le désormais ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a présenté ses excuses. Je suis vraiment désolé et j'ai le cœur brisé de ne pas avoir pu répondre à vos attentes, a-t-il déclaré. RFI, il est midi 10 à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.